Jésus étant né, étant présenté au temple, voici ce que dit Siméon. Maintenant, maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut, ce salut que tu as préparé face à tous les peuples, lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël, ton peuple. Voilà, c'est ce petit chant que vous connaissez peut-être, qu'on chante parfois d'ailleurs dans nos assemblées, que je viens de vous lire et avec lequel je voulais vous accueillir les uns et les autres pour ce culte de Noël, puisque ce dimanche tombe à 25, ça arrive une fois tous les 7 ans, si je ne me trompe, un peu de choses près. J'espère que hier soir vous avez été raisonnable. Je ne sais pas, bon... mais que vous avez eu quand même beaucoup de plaisir les uns les autres à vous retrouver en famille ou avec des amis, ou sais-je encore, parce que Noël, c'est quand même une très belle fête, une fête d'espérance. C'est une fête de lumière pour les nations, comme le dit Siméon à juste titre, évidemment. Et je crois qu'il faut le souligner. Aujourd'hui, avec l'actualité qui est un petit peu chargée, malheureusement, c'est vrai que cette fête prend une coloration particulièrement importante et intense, puisque malgré les guerres dont l'actualité nous abreuve régulièrement, les attentats ou que sais-je encore, les accidents, nous maintenons quand même cette idée qu'il y a une espérance dans le monde, il y a une lumière qui est là pour guider le monde finalement, et que tout cela est quand même éminemment positif. Je crois qu'il faut quand même le souligner, le message du christianisme est un message d'espérance et d'amour, et Noël participe évidemment de ce message comme il se doit, puisque c'est la fête qui célèbre la naissance de Jésus, qu'on a fixée de manière toute théologique, vous le savez, le 25 décembre. Alors soyez les bienvenus les uns et les autres. Je souhaite la bienvenue tout particulièrement aujourd'hui à ceux qui viennent du sud de la France, du côté de Marseille, de Digne, je ne sais pas très bien, dans tous ces pays-là, où il y a quelques montagnes, qui est pays que vous connaissez sans doute, pour y aller en vacances, je ne sais pas. Mais je voudrais leur souhaiter la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui sont de passage aussi, quelle que soit leur appartenance, évidemment, leur manière de voir Noël aussi, pourquoi pas. Soyez les bienvenus pour ce moment de culte. Alors, nous ne prenons pas les livrets bleus, on va chanter que des cantiques, évidemment des cantiques de Noël, que vous avez sans doute entendu peut-être hier ou dans d'autres réunions. Et tout de suite, je vous invite à prendre le chant 181, « Vous les fleuves, les rivières ». Je vous invite à entendre un passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 15 tout d'abord. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète, Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Et entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage, ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et puis, divinement averti en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Voilà, après cette lecture de Matthieu, je vous invite à prendre le chant 178. Aux nuits bienveillantes, hein. Vous vous levez, hein. Là, je vous invite maintenant à entendre l'évangile de Luc. Après les mages, les bergers, ce qui est assez logique en général. En ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville, et Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David, qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota, le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et qui montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. » Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né, emmailloté, et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange, l'armée céleste, en masse, qui chantait les louanges de Dieu et qui disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour les hommes, ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui avait été dit au sujet de cet enfant et tous ceux qui les entendaient furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Et on va prendre le 168, sortez bergers de vos retraites. Et enfin, comme troisième texte, je vous invite à entendre et réentendre le prologue de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu, et tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe fut chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Cette gloire que Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Jean lui rend témoignage et proclame : Voici celui dont j'ai dit : Après moi vient un homme qui m'a devancé parce que avant moi il était. De sa plénitude, en effet, nous avons reçu et grâce sur grâce. Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Et je vous invite à prendre le psaume 96. Je vous donne quelques réflexions sur les textes qui ont été lus tout à l'heure, des textes qu'on lit toujours à Noël, évidemment. Et ils n'ont pas sans poser problème. D'abord parce que Marc ne dit rien à ce sujet. Marc commence mis en tête par le ministère de Jésus alors qu'il est déjà adulte. Si on y regarde un peu plus près, Matthieu et Luc nous présente ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, qui sont des écrits un peu tardifs, qui ont été rajoutés par des mains inconnues au corpus de l'évangile. Mais cette naissance d'un dieu ou d'un fils de Dieu, ça sent un peu le paganisme, quand même, je trouve. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi. Parce que dans l'Antiquité, ça ne devait pas gêner les gens, parce que dans tous les récits qu'on raconte dans les mythologies, il y a beaucoup de dieux qui s'incarnent, qui naissent, de couples qui se forment entre un dieu et une mortelle, etc. Enfin bref, ce genre de récit ne manque pas. Mais quand même toujours un petit peu étonné quand on fait ce type de comparaison de voir que dans le Nouveau Testament, boum, on retrouve ce genre de réflexion. C'est pas sans poser de problème. Surtout si Marc ne dit rien, et que Jean, lui non plus, ne dit pas grand-chose à ce niveau, puisqu'il décide de commencer son évangile, si tant est que ce soit lui qui l'ait écrit, mais enfin peu importe, qui a écrit ce prologue, par ce fameux prologue-là que je vous ai lu, qui est une entrée en matière purement théologique, un discours philosophico-théologique, qui s'appuie sur la sagesse de la Bible, et ça je crois que c'est important, si on veut comprendre le prologue de Jean, il faut absolument lire les textes de sagesse, les proverbes, le Siracide, etc., enfin bref, et où on voit la sagesse qui est tout à fait semblable à ce que dit Jean à propos de la parole ou du Verbe. Et puis, Jean est sûrement aussi influencé par le néoplatonisme de Philon d'Alexandrie ou de ses disciples, vraisemblablement aussi. Et donc là, il y a un mélange aussi qui est assez curieux pour cette inauguration de l'Évangile. Pourtant, c'est un très beau texte lui aussi, évidemment. En fait, la naissance de Jésus reste dans le secret, hein, finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on peut rester raisonnable, disons. Peut-être, je ne sais pas si c'est complètement idiot ce que je dis, peut-être faux, j'en sais rien, mais si on est raisonnable, on peut penser que Jésus est né à Nazareth, hein, tout simplement, dans la famille du charpentier local. Hein. Il me semble assez logique, vous voyez. Alors vous me direz, c'est peut-être un petit peu iconoclaste de vous dire ça, avec cette banalité, le jour de Noël, où on aimerait bien qu'il y ait les bergers et les mages tout autour de cette crèche, avec toutes ces couleurs, ce folklore, etc. Mais en fait, je pense personnellement que Jésus est bien né à Nazareth, dans la famille de Joseph et de Marie, et que c'est l'aîné de sa famille, comme ça se dit plus tard d'ailleurs dans les évangiles, puisqu'il a plusieurs frères et sœurs. Marc ne s'est intéressé qu'au ministère de Jésus, il n'y a que ça qui l'intéresse. Finalement, il est peut-être celui qui a raison sur les quatre évangélistes. Parce que c'est ça qui compte finalement. Il s'intéressait au ministère alors que Matthieu est assez sobre lui aussi finalement. Alors, mais c'est vrai que dans cet évangile de Matthieu surgissent ces mages qui viennent de ne sais pas trop où. On ne sait pas où est-ce qu'il est allé pêcher cette histoire des mages. Là on peut toujours faire des développements, il y a un enseignement là-dedans évidemment. Mais ces mages ils surgissent comme cela de l'Orient avec leur science, leurs mathématiques, leur mystère aussi évidemment. Et puis... il y a Luc. Il y a Luc qui, lui, a un évangile de l'enfance qui est extrêmement développé avec un tas de personnages. Et puis, vous savez que vraisemblablement, l'œuvre de Luc ne s'arrête pas à la résurrection de Jésus, mais se poursuit tout au long des actes des apôtres, au moins dans la première partie des actes. Et donc, il y a une œuvre de composition chez Luc qu'on perçoit assez bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça, finalement? Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, ben, Jésus est né. Oui, c'est une évidence. Aujourd'hui, malgré toutes ces légendes qui entourent Jésus ou ces récits purement théologiques, eh bien, je crois qu'il faut partir d'abord de cette constatation, c'est que Jésus est né. Il est né dans la Palestine du 1er siècle, au début de ce 1er siècle, ou à la fin du dernier siècle, évidemment, de l'Antiquité. Mais je crois que c'est important. Je crois que c'est important parce que je me suis dit, cet enfant qui vient au monde, eh bien, elle est venue au monde comme tous les enfants du monde, et c'est déjà ce qui m'intéresse. Voilà. Se dire que Jésus est né comme vous êtes nés les uns et les autres, ici présents, et il est né en criant, comme tous les enfants du monde. Et lorsqu'on se balade dans les maternités et qu'on passe devant les salles de travail des parturientes qui accouchent, et lorsqu'on entend le cri de l'enfant, on dit « Tiens, il y a un enfant qui vient au monde », et c'est toujours quelque chose de sympathique. Et je pense que c'est ce qui s'est passé à Nazareth un jour, avec la naissance de Jésus. Il a crié. Le cri de l'enfant, c'est le signe d'abord d'une souffrance. C'est bizarre que ça puisse sembler. Si les enfants crient, c'est parce qu'ils ont mal, puisque paraît-il, le poumon, à la première respiration, se déplie, et que, si paraît-il, c'est très douloureux. Certains psychologues disent qu'inconsciemment, on a vaguement le souvenir de cette souffrance et de ce cri. Mais ce cri, c'est aussi la vie. C'est le signe même de la vie. Et donc, en ce qui concerne Jésus, ce cri, c'est la première manifestation de l'incarnation. On peut raconter ce qu'on veut, mais ça fait partie de la réalité. Le cri de Jésus au commencement. La parole incarnée, c'est ce cri qui dit la vie de la manière la plus humble qui soit. Parce que ce qu'ont voulu dire les légendes autour de Jésus, c'est cette humilité qu'il y a. Le fait que Dieu, en voulant se manifester à travers Jésus dans le monde, n'a pas choisi la royauté hérodienne, n'a pas choisi la grande prêtrise du temple de Jérusalem, ou les savants qu'étaient les pharisiens, mais il a choisi l'humilité d'un enfant d'une famille lambda finalement, d'un pays un peu à l'écart. Et je crois que Matthieu et Luc, en signifiant cela, ont voulu nous faire passer un message particulier. Oui, il est né dans une étable, comme on dit, ou à l'écart, et des bergers étaient là, c'est-à-dire des personnages un peu équivoques, vivant avec les animaux et donc étant impurs, souvent de sombres brutes qui étaient obligés de se battre contre des fauves pour sauver leurs troupeaux et que sais-je encore. Ce sont ces hommes qui sont là, un peu rudes et un peu à l'écart, qui viennent honorer Jésus ou alors ces mages venus d'ailleurs, de nulle part, et qui sont païens et qui viennent eux aussi. C'est assez curieux que Matthieu et Luc aient eu l'idée de nous faire passer ce message de l'humilité de la naissance de Jésus. Oui, Jésus est né. Il est né avec le cri de la vie, le cri de l'enfant qui vient au monde. Il est né du côté de l'humain. Il est pleinement humain. Et à ce cri, j'essaie de me représenter, il y a un écho qui va se faire tout au long du ministère de Jésus. Et il y a un autre cri qui est là dans la Bible. Celui-là, il est mentionné en revanche. Il est mentionné dans Luc, dans Marc et dans Matthieu. C'est Jésus poussa un grand cri et expira. Vous voyez, trois fois la phrase est reprise à peu de choses près, hein, dans les évangiles synoptiques, pour exprimer ce cri de la souffrance, du désespoir de l'homme qui meurt. Jean est plus sobre, lui, il ne dit pas que Jésus crie sur la croix, il dit simplement qu'il a incliné la tête et qu'il est mort. Je trouve que c'est intéressant de voir que, au commencement de la vie de Jésus et à la fin de la vie de Jésus, il y a un cri, le cri de l'humanité, le cri de l'humain qui vit et qui meurt, finalement, le cri qui résume toute notre vie au final. Parce que la vie, elle est là. Elle est faite de joie, puisque c'est une naissance, et d'espérance, puisque c'est une naissance. Elle est faite de souffrance aussi, puisqu'il y a cette douleur. Et puis, il y a cette interrogation autour de la mort, avec la souffrance qu'il y a aussi. Je crois que ces cris qui se font écho dans la Bible, du début à la fin, expriment parfaitement qu'il y a une humanité qui est là et qui est porteuse d'un message tout à fait extraordinaire. Ces cris de l'humain en Jésus, c'est le signe même de la rencontre entre le monde et Dieu. C'est le résumé d'une parole, finalement. Une parole qui, peut-être si elle semble inaudible au départ, comme cela, parce que les cris sont difficilement déchiffrables, exprime quand même la réalité dont je viens de parler, de la vie. La parole, elle est là. Elle est là, elle est humaine. Ce cri est une parole humaine. Et j'ai écrit avec un H majuscule, que j'ai souligné précisément, parce que ce n'est pas une simple banalité, hein, ou une petite contrariété, même une grosse contrariété qui fait qu'on va crier, mais c'est vraiment le cri de la vie, le cri de la mort, le cri de l'espérance aussi. C'est une parole qui va s'exprimer, c'est ça que ça dit. Ce cri, c'est le cri d'une parole qui va créer tout au long d'un ministère, finalement, d'une parole qui donne la vie entre Noël et Pâques, d'une parole qui donne la vie parce qu'elle questionne, finalement. C'est assez intéressant de voir comment cette parole qui s'incarne, hein, se manifeste. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Plusieurs fois, Jésus pose la question aux gens. Vous savez, j'ai eu l'occasion de prêcher sur cette question que Jésus pose aux infirmes en particulier. Évidemment, les réponses sont évidentes. Si on pose la question à quelqu'un qui est dans le malheur, quel que soit le malheur, il va répondre à la question « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Ben, je voudrais sortir du malheur, évidemment. Ça va de soi. Et pourtant, personne ne pose la question. Lequel d'entre nous a posé la question à un SDF qui tend la main, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une question. On a quand même un silence pesant à la question. Parce qu'en fait, on ne saurait pas très bien quoi faire si la personne répondait. On serait bien embêté. Mais Jésus pose la question, que veux-tu que je fasse? Mais en posant cette question, il dit à l'être humain qui est en face de lui, tu vois, tu existes. Parce que je te pose une question et j'attends une réponse. Je veux dire, tu as une autonomie de parole, tu peux, toi, répondre à ce moment-là. C'est pour ça que les aveugles vont se lever, les paralysés vont se lever, que les exclus vont se lever aussi précisément, parce qu'ils sont posés là, dans leur humanité, par cette parole, finalement, au travers de leur souffrance. Il va poser d'autres questions, il va dire à ses disciples, et vous, là, les disciples, là, qui dites-vous que je suis? Hein? Là aussi, c'est une question dont la réponse n'est pas si évidente que ça, finalement, parce que c'est une réponse qu'on n'a jamais trouvée, finalement. On se pose toujours la question, qui dites-vous que je suis, qui dites-vous que je suis, finalement? C'est pas très bien. On ne sait pas très bien, la preuve, c'est que chaque génération de pasteurs, de théologiens, de prêtres réécrit à chaque fois une dogmatique complète sur ce sujet, et pour savoir qui est Jésus et percer son mystère. La parole qui est là, elle guérit. Elle guérit par l'appel, finalement. Elle guérit par l'appel du nom, et je crois que c'est l'acte créateur, fondamental, précisément la parole. Dieu dit, les choses apparaissent, Dieu appelle par leur nom les gens, et les gens apparaissent dans leur identité, dans leur être précisément. Dieu partage, il partage finalement les repas, la Sainte Cène, etc., avec toutes celles et tous ceux qu'il peut rencontrer. C'est fou ce qu'on mange dans le Nouveau Testament. C'est incroyable. Il y a un nombre de repas, je n'en souviens plus. Hein, quand j'ai fait mes études de théologie, Maurice Carrez nous avait dit le nombre de repas, c'est notre prof de Nouveau Testament, hein, nous avait dit le nombre de repas qu'il y avait dans le Nouveau Testament, c'est complètement dingue. On a l'impression qu'ils sont tout le temps à table. Vous voyez, entre les Saintes Cènes, les repas chez Matthieu ou d'autres, enfin bref, c'est assez intéressant. Bien, je crois que Jésus partage. Voyez, et c'est pas pour rien que ici, quand vous arrivez, ben vous avez des gâteaux pour vous accueillir, ou des biscuits, du café, que sais-je encore. Je veux dire, c'est le prolongement naturel, finalement, d'un message de l'Évangile qui est là. Je trouve que c'est tout à fait bien que nos églises se lancent dans cette manière de vivre et d'accueillir, finalement. Et puis Jésus, cette parole, il y a cette parole, une parole de pardon, hein, puisque vous le savez, le pardon, il est prononcé de manière solennelle, de manière incroyable, sur la croix, précisément. Cet enfant qui vient au monde, qui n'est rien du tout, qui arrive avec le cri de l'humain, finalement, il a en lui cette parole de pardon, cette parole libératrice, finalement. Libératrice, une parole qui va courir, finalement, le long des routes du monde jusqu'à nous, dans des rencontres improbables parfois, mais des rencontres qui feront toujours vivre. La parole, c'est le témoignage de Dieu qui vient à nous. Et je crois que s'il n'y avait pas le cri du nouveau-né à Noël, la parole n'aurait pas tout à fait cet impact qu'elle a, finalement. Parce que si la parole nous touche, précisément, c'est que ça résonne en nous, d'une certaine manière. C'est qu'on la comprend, c'est qu'on peut se l'approprier. Et donc, cette parole, il faut qu'elle soit profondément humaine. C'est pour ça que je pense que l'enfant qui naît à Noël, ou qu'il soit après tout, ça nous est bien égal, finalement, mais cet enfant qui vient signifie véritablement que ça concerne l'humain, que ça va parler humain, ça va parler à l'humain et de l'humain, finalement, pour que nous puissions nous saisir de ces paroles qui seront dites dans la suite, finalement. Et c'est ça qui est important. Le cri de l'enfant nous dit cela, nous dit une parole qui est proche de nous, véritablement, une parole qui est comme nos paroles, finalement, qui va nous toucher dans notre quotidien. C'est pourquoi Jean, dans son entrée majestueuse et magistrale de ce poème extraordinaire, dans son évangile, parle du Logos, de la parole, du verbe, finalement. Un verbe qui est là, qui donne du sens. Et donc, c'est ça le terme du Logos, finalement, qui donne du sens au monde, qui donne du sens à l'existence. Un Logos qui est transcendant, un Logos qui vient d'ailleurs, qu'on ne peut pas signifier, finalement, mais qui va se vivre et qui nous fait toucher du doigt ce que peut être l'éternité. La parole incarnée, le logos johannique, qui résume finalement ce que peut être cette parole qui va d'un cri de naissance au cri de la mort, nous dit finalement que le royaume est là et que c'est un royaume de paix et d'amour qui nous concerne tous. Amen.
Thank you.
Nous allons vivre la Sainte Cène, mais auparavant, je vais vous raconter un conte, comme c'est Noël, hein. Après tout, pourquoi pas. Ce conte va introduire la Sainte Cène, donc c'est un conte sérieux. C'est l'histoire d'un rat. Vous voyez qu'on est dans le sérieux. Hein. Dans toutes les maisons, il y a des rats. Il y en a même dans cette maison, vraisemblablement. Si on fait un petit peu attention, du côté de la cave, il y a sûrement des rats. Dans tous les cas, elle est pleine de souris. L'histoire du rat que je vais vous raconter, c'est l'histoire du rat qui était à Nazareth, chez le charpentier. Vous voyez ? Et ce rat, comme bien des rats de maison, ramassait tout ce qu'il pouvait ramasser, en particulier lorsque des miettes tombaient de la table familiale, eh bien, il ramassait tout ça autant que faire se peut, évidemment. Voilà. Mais surtout, il y avait un soir qu'il aimait particulièrement. C'était le soir où on fêtait la nuit la plus longue et le jour le plus court de l'année, parce que c'était ce jour-là qu'était né le fils du patron. Et le patron, il s'appelait Joseph, son épouse était Marie, et ce garçon dont on fêtait l'anniversaire ce jour-là, c'était Jésus. Or, le rat avait bien repéré Jésus parmi ses frères et sœurs qui étaient là. Il avait bien repéré qu'il était particulièrement sympa avec tout le monde, et même avec les animaux. Et que régulièrement, il faisait exprès, parce que ça devait l'amuser, de faire tomber quelques miettes de la table afin de nourrir ce rat qui sortait de son trou immanquablement pour aller ramasser ce qu'il pouvait ramasser. Mais le soir de Noël, là, c'était de l'abondance, parce qu'il y avait, comme dans toutes les grandes fêtes juives, un éclat particulièrement formidable, et du coup, il y avait des gâteaux, des choses comme ça, et Jésus, exprès, faisait tomber des morceaux de gâteaux par terre, et le rat, évidemment, en profitait. Et puis, quand la fête était finie, le rat rentrait dans son trou à nouveau, et les années passèrent ainsi. Jésus, évidemment, avait quitté la maison depuis longtemps. Il était là sur les routes de Palestine, en train d'annoncer le royaume, en train d'annoncer le pardon, de célébrer la vie partout, finalement, dans sa dignité. Et un jour qu'il était à table, ce Jésus, avec ses amis du côté du Liban actuel, de la Phénicie, une femme est arrivée. Une femme est arrivée assez désespérée. Elle s'est précipitée dans ce repas réservé exclusivement aux hommes. Elle a dit à Jésus, « Sauve ma fille qui est en train de périr. » Et Jésus l'a renvoyée sèchement. Vraiment sèchement, en lui disant, « On ne donne pas le pain aux petits chiens. » C'est un jour grave. Mais la femme lui a dit ceci, « Ouais, mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table du maître. » Et là, Jésus a été surpris. Et puis peut-être que, se souvenant qu'un jour, quand il était enfant, il faisait exprès de laisser tomber des miettes pour un rat, s'est dit après tout, pourquoi pour cette femme qui vient pour sa fille, ne laisserai-je pas tomber quelques miettes afin de la sauver ? Et effectivement, il lui a dit, oui, ta fille est sauvée. Et voilà comment l'histoire d'un rat qui allait à la table de Jésus et l'histoire d'une femme qui allait à la table de Jésus comme cela nous ouvre à cette idée que la table du Seigneur est ouverte véritablement à tout le monde. Que nous soyons des rats, que nous soyons des païens, des libéraux qui sont toujours à la limite de la dogmatique, ou celles et ceux qui confessent que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu et que Dieu est trinitaire, catholique, protestant, agnostique, philosophe. Je crois que autour de la table du Seigneur, il y a une place pour tout un chacun, précisément, et surtout à Noël. Voilà, je voulais vous raconter ce conte de Noël parce que c'est Noël et qu'on raconte des contes toujours, et vous dire que si vous êtes de passage ici, eh bien vous êtes, quelle que soit votre appartenance, vraiment invité à participer à la Sainte-Cène. Alors, pour ceux qui ne sont pas tout à fait habitués à la Sainte-Cène du foyer de l'âme, on donne aux enfants des gâteaux. Hein? Voilà, des chouquettes. Et s'il en reste des chouquettes, eh bien, il faudra que vous attendiez les adultes, en ce qui concerne les adultes, la fin du culte pour aller les finir. Hein? Il est vraiment digne et juste. C'est notre joie et notre salut de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Père éternel et saint, toi qui as exprimé ton amour dans notre faiblesse humaine, afin de réconcilier par ton esprit d'amour toute créature avec toi. C'est pourquoi, avec les anges et toutes les armées des cieux en une commune allégresse, nous exaltons, nous magnifions ton nom saint, saint, saint et éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Que toute créature fasse silence devant le Seigneur. Le soir venu, Jésus se mit à table avec ses 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Nous prions Dieu. Père, il y a ce cri qui résonne dans l'éternité, qui d'année en année vient jusqu'à nous, jusqu'à nos oreilles. C'est le cri de la vie, c'est le cri d'un partage extraordinaire, d'un don que tu nous fais finalement, pour nous donner un peu d'espérance, un peu de joie, pour nous dire ce qu'est ton royaume finalement, un grand partage, une grande table autour de laquelle les uns et les autres se retrouveront en ta présence. Ce pain et ce vin ici présents sur cette table sont là pour nous signifier cette présence. Ils nous disent que tu es là présent en esprit, en vérité, au cœur de chacune et chacun d'entre nous. Père, que ton esprit soit au cœur de nous-mêmes, que nous puissions réaliser dans le partage que nous vivons la fraternité des humains autour de toi, de ceux qui sont passés, qui nous ont précédés, et de ceux qui sont là aujourd'hui, des présents et des absents. À cette table, nous associons en pensée toutes celles et tous ceux qui sont seuls dans des moments de fête, et puis toutes celles et tous ceux qui sont dans la souffrance, dans la guerre, victimes des injustices. Oui, Père, au-delà des signes de ta présence, il y a une réalité qui nous dépasse infiniment, que seul ton esprit peut nous faire saisir. Merci Père. Merci Père pour le ministère de Jésus, la manière dont il a apporté la parole humaine avec la parole de Dieu. Merci pour ce ministère qui nous ouvre les voies de l'espérance, de la joie et d'un amour qui nous dépasse et que tu nous appelles à partager. Père, au moment où nous sommes réunis autour de toi, nous te prions pour invoquer ta présence, appeler ta présence. Viens, Seigneur Jésus, viens, Père, pour nous vivifier, pour nous mettre debout dans la dignité de l'humain, pour nous signifier toute la force de ta parole. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Le maître nous appelle, venez prendre la scène avec lui, et je vous invite à vous mettre en cercle autour de cette table. Le pain rompu, la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ce corps qui a été donné pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, c'est la coupe au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang d'une alliance qui a été passée par Dieu, afin que nous puissions en vivre éternellement. Père, merci pour cet instant, ce moment d'éternité qui nous accompagne chaque jour de nos vies. Merci pour ta parole qui commence par le cri de l'humain que nous partageons dans le silence et que nous entendons à chaque moment. Père, merci pour le ministère de Jésus-Christ et des apôtres, pour le ministère des églises, pour l'amour annoncé, pour le royaume annoncé, et pour les partages qu'il y a partout dans le monde et qui nous disent ta présence au monde. Amen. Alors évidemment, dans nos prières, n'oubliez pas ceux qui sont dans la peine, auxquels il a été fait référence au cours de ce moment. Vous avez certainement des gens dans vos familles proches de vous auxquels vous pensez tout particulièrement, que ce soit pour des moments difficiles ou des moments de joie. Pensez à tous ces nouveau-nés qui, aujourd'hui, vont crier aussi la vie, finalement. Et avec eux, pensez à tous les enfants du monde, sans doute. Il y a tant et tant de choses qu'on voudrait dire, qu'on voudrait remettre à l'Éternel, qu'on ne sait plus très bien par où commencer, mais comment ne pas évoquer la paix aujourd'hui et la justice pour le monde entier. Notre Père, toi qui es au cœur de nos vies, ton nom est magnifique. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le pain soit en partage sur toutes les tables du monde et que ta parole nourrisse chaque être humain. Donne-nous la force de pardonner comme tu nous pardonnes, toi qui ne nous laisses jamais seuls face aux tentations et aux forces du mal. À toi, notre Père, le règne de l'amour, la force de l'esprit, la lumière de ta parole, au siècle des siècles. Amen. Chers amis, notre moment de culte, de méditation de Noël prend fin, mais je ne vais pas vous lâcher comme ça sans qu'il y ait l'offrande. Surtout pour le dernier culte de l'année. Alors, dans la lumière de ce temple, dans la lumière de Noël et dans la lumière d'Hanouka, puisque c'est la fête d'Hanouka pour les Juifs, je vous invite à participer à notre offrande. Et pendant ce temps d'offrande, je ferai peut-être deux ou trois annonces. Je l'ai dit la dernière fois, au niveau financier, on a eu une année particulièrement, je dirais, chaotique. Pour des tas de raisons, mais on finit l'année presque comme il faudrait la finir tous les ans. On est presque au bout de la réalisation de notre budget, avec la cible et surtout les frais de chauffage qu'on a refait et les frais d'entretien qui nous ont été imposés par les commissions de sécurité. Donc, on n'est pas tout à fait au bout de la réalisation, mais on y est presque. Et franchement, je voudrais vous remercier les uns et les autres pour l'effort qui a été fait dans cette paroisse pour que nous puissions tenir à peu près nos engagements. Bien qu'étant à la Croix-Bleue, depuis plus de 30 ans, je suis bien dans l'obligation de vous dire qu'il y a du Beaujolais nouveau à vendre, qui reste de la kermesse. Bon, alors, les gens des alcooliques anonymes, de la Croix-Bleue, de la Croix d'Or, qui aident ceux qui ont des addictions assez fortes, ne sont en aucun cas prohibitionnistes. Évidemment, les membres actifs dans mon genre signent des abstinences totales pour aider ceux qui sont dans le piège, quoi, finalement, de l'addiction. Mais ceux qui peuvent profiter d'un bon vin, d'un verre comme ça, eh bien, on s'en réjouit pour eux. C'est un discours qu'on entend relativement peu, mais je ne saurais trop que vous dire de profiter, si vous pouvez en profiter. Et si vous ne pouvez pas, prenez un jus de fruits, il n'y a pas de problème. Mais dans tous les cas, voilà, faites attention quand même à ces addictions qui sont là, qui font quand même beaucoup de dégâts. Alors, il y a du Beaujolais nouveau, mais comme il ne faut jamais boire à jeun, vous avez des confitures avec. Voilà. Donc, je pense que vous pouvez, si vous le voulez, participer comme cela à la vie de la paroisse. Sans doute que c'est une première qu'on fait d'avoir des mini ventes. Il n'y a pas beaucoup de choses pour l'instant, mais c'est une première qu'on fait. Si, selon vos réflexions, vos idées, peut-être qu'on continuera tout au long de l'année à venir à avoir comme cela des moments de vente comme cela tout au long de l'année, voyez, de partage aussi, parce qu'on a intention de vendre que des choses agréables. Ce soir, Freddy, tu fais l'annonce pour ce soir?
Oui.
Entendez le cri de l'enfant. Entendez la parole de vie, d'espérance et d'amour. Devenez propriétaire de cette parole, pleinement, afin que vous puissiez la divulguer après autour de vous, selon vos charismes, vos rencontres, les occasions qui se présenteront. C'est finalement un des aspects intéressants de nos offices, de nos cultes, que de savoir que nous sommes des prophètes, des porte-paroles finalement, de la parole de Dieu. Cette parole qui vient dans le monde, qui s'exprime en plénitude à Noël précisément. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous garde toutes et tous, vivez Noël dans la joie et dans l'espérance, apportez de la lumière dans un monde un peu sombre, soyez vraiment les fils et les filles du Très-Haut. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde maintenant toutes et tous. Allez en paix. Amen. Et je vous invite à profiter encore un petit peu de l'orgue et de Freddy, qui est au perchoir, là-haut, en chantant le chant de sortie 169, « Émerveillons-nous ensemble », et en profitant un petit peu d'un jeu d'orgue pour finir ce moment de méditation.